Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Mais bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval en tenue sportive aujourd'hui, hein, pour un sujet assez sportif. C'est-à-dire c'est la décision de la Cour fédérale.
C'est le problème de Cube Télé, hein, ça, oui. C'est maintenant... On... Mais oui, c'est un sujet très sportif, en
Donc,
effet.
Donc, c'est la décision de la Cour fédérale qui a invalidé l'état d'urgence fédérale dans le dossier du Convoi de la liberté. Toi et moi, on en a parlé plusieurs fois l'an passé. Je pense qu'on partageait aussi un certain scepticisme quant à l'usage de cette espèce de bombe nucléaire là, juridique et policière. Ouais. Et je veux t'entendre sur ce revirement-là, parce qu'il y avait quand même une commission d'enquête du juge Rouleau qui avait dit, ben non, le gouvernement était justifié d'utiliser cette bombe nucléaire, j'emploie encore l'expression. Je t'écoute.
C'est tout un revirement, en tout cas. Là. Ça fait 2 ans, les événements.
Oui.
1 an, le rapport Rouleau, là, quelques jours près. Et bon, moi,
oui, j'ai dit ça le Convoi de la liberté, mais je tiens à préciser aux téléspectateurs que c'est les camions là à Ottawa.
Oui,
là.
Bien sûr.
C'est ça, je tiens à le préciser. Bon, je t'écoute.
Et franchement, c'est le contraste entre le contenu du rapport Rouleau, que j'avais lu à l'époque, ben peut-être le 100 pages de résumé, et le contenu des motifs là de ce jugement de 190 pages du juge Richard Mosley.
Oui.
C'est fascinant comment il résonne à partir des mêmes ingrédients. C'est sûr que il va y avoir des gens pour insister sur l'idée que la mission du juge Rouleau n'était pas la même que la mission du juge Mosley. C'est vrai, le juge Rouleau, lui, il est plus proche d'une commission d'enquête, il fait le bilan en vertu de la loi, puis à la limite, le juge Rouleau, lui, sa mission, c'était d'être plus sévère. Parce que sa mission, c'était de faire des recommandations. Même si le gouvernement était correct, il devait penser le mieux pour la prochaine fois. Donc, sa liberté sa marge de manœuvre pour aller très loin dans sa réflexion, à mon avis, elle était plus grande. Alors que le juge Mosley, lui, il incarne le pouvoir judiciaire qui doit faire preuve de retenue face à un pouvoir politique là, qui est sur des questions de sécurité, qui est en temps de crise. Puis c'est un peu l'inverse qui s'est passé. C'est le juge Rouleau qui fait preuve de retenue, puis c'est le juge Mosley qui dit...
C'est le monde à l'envers, comme disait Stéphane Bureau à la télé il y a quelques années. Mais dis-moi donc, là, l'état d'urgence, c'est une sorte de loi des mesures de guerre, et on se souvient que ça a été utilisé en 70. 14 ans plus tard, c'est révisé par Pierre-Elliott Trudeau. La loi est finalement adoptée et on met dans la loi, on rend le recours à cette bombe nucléaire-là plus difficile. On ajoute une espèce de révision judiciaire obligatoire, ce qui a été le juge Rouleau. Et là, par contre, pour ce qui est du juge Mosley, ce qui vient de tomber, là, ça vient d'où? C'est une poursuite devant la Cour fédérale, je crois.
Ça, c'est deux groupes du Canada anglais, des associations de protection des libertés civiles. Ils se sont aussi trouvés des individus concernés. Mais d'ailleurs, il y a des dossiers d'individus qui ont été rejetés par le juge. Il dit, c'est pas des vrais cas concrets, puis il en a retenu deux, puis il a accepté les demandes des deux associations.
Okay.
Mais on rejoue un peu le même film que devant la commission Rouleau, là. C'est des éléments de preuve qui sont souvent les mêmes. C'est les questions de droit, les ingrédients juridiques à partir desquels le juge Rouleau réfléchit puis le juge Mosley réfléchit. Ce sont les mêmes ingrédients.
C'est ça. C'est la charte des droits, c'est la loi.
Et les deux groupes de la société civile, qui sont requérants dans le dossier devant nous cette semaine, ils étaient aussi là partie prenante du débat là devant la commission Rouleau. Fait que c'est vraiment fascinant comment on arrive à dans un cas le verre est à moitié vide et dans l'autre cas le verre est à moitié plein. Le jugement Mosley, j'ai pris le temps de le lire. Alors je te résume ce qui est le plus intéressant.
Okay.
Le plus intéressant, c'est ce qui vient, c'est ça, la partie où il réfléchit sur le contenu de la loi sur les mesures d'urgence, là, la nouvelle loi sur les mesures de guerre. Évidemment, elle est plus exigeante, cette loi. On l'a voulu plus sévère à cause des abus de la crise d'octobre. Moi, j'irais même dire qu'elle est un peu trop sévère à l'endroit du gouvernement par moment. Et c'est ça que fait le juge Mosley. Il prend les critères de la loi au sérieux. Là où le juge Rouleau est toujours en train de dire, ben, je laisse le bénéfice du doute au gouvernement, je comprends que d'autres pourraient avoir une autre lecture de la situation, mais je laisse le bénéfice du doute au gouvernement, alors que lui, il va arriver et il va dire, non, écoutez, il y a un critère, ça prend une menace à la sécurité nationale, il n'y en avait pas.
Voilà.
Il a raison. Il a raison, mais en même temps, est-ce que c'est pas un critère trop sévère, ça? Parce qu'un jour, on pourrait imaginer un État paralysé, pour de vrai, pas parce que le gouvernement était passif, là, comme dans ce cas-là. Donc, des problèmes importants pour lesquels on n'a pas de solution avec nos moyens réguliers, mais qui sont pas pour autant des menaces à la sécurité nationale. Donc, c'est là où moi, je m'interroge sur la loi fédérale, si elle va pas un peu trop loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des problèmes qui sont prolongés pour lesquels on a besoin d'outils spéciaux, mais qui ne menacent pas la sécurité. Et là-dessus, en tout cas, le juge, lui, il applique le critère prévu par la loi. Le deuxième critère qu'il applique, celui-là, j'y crois à ce critère-là. Il est prévu par la loi. Hein. Souvent, à ce micro, on parle des critères juridiques. Parce que ce sont des critères que les juges inventent pour interpréter la charte. Mais là, on n'est pas là-dedans. C'est des critères noir sur blanc, inscrits dans la loi. Puis le juge dit, ben écoutez, à la limite, il dit pas, là, mais si ces critères-là font pas votre affaire, vous avez qu'à changer la loi. Et donc, on n'est pas dans la même logique là que ces critères jurisprudentiels en matière de charte. Deuxième critère important, donc, est-ce qu'on avait épuisé les solutions de rechange? Est-ce qu'on avait épuisé les outils normaux, les pouvoirs normaux que la police détient, les pouvoirs normaux que les gouvernements détiennent? Puis là, c'est vrai que le gouvernement Trudeau aura sa faute dans le dossier, ça aura été d'être passif. Et on l'a vu, par exemple, à Québec, le maire Marchand avait été très proactif avec une stratégie, puis avec un peu de volontarisme, puis il avait évité que les campements s'installent. Oui. On avait vu en Ontario, la veille de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence, avec les moyens réguliers, on avait réussi à défaire le barrage du pont Ambassador qui bloquait la frontière canado-américaine.
Oui.
Et donc là-dessus, là...
Mais je me souviens des mots que tu avais employés dans le temps. Il n'y a pas d'insuffisance de droit.
C'est ça.
Il y a une insuffisance peut-être policière, mais il n'y a pas une insuffisance de droit. Mais j'avais trouvé ça très juste comme expression, parce que quand on utilise un outil comme celui de la loi des mesures d'urgence, ben c'est qu'on a besoin d'un coup juridique ou législatif majeur, là.
Et le juge Rouleau, lui, achète complètement l'excuse ou le motif du gouvernement fédéral, c'est que la police d'Ottawa était dysfonctionnelle, ça marchait pas, et c'est pour cette raison-là qu'il fallait d'autres solutions.
Ah oui.
En même temps, lui, le juge Mosley, il dit non, s'il y avait un problème à la direction de la police d'Ottawa, c'est pas une impuissance, c'est pas qu'il y a pas les moyens, c'est qu'il y a un problème de leadership. Puis il y a peut-être d'autres solutions que l'état d'urgence pour ça. Mais après, à la fin, là, c'est du droit, mais tout le monde peut se faire sa petite idée. Je prends un exemple. On nous dit les compagnies de remorquage refusaient de contracter avec l'État fédéral parce qu'ils se disaient on va avoir des représailles. Mais ça, c'est un bon argument qui montre que dans l'état normal des choses, si les partenaires privés refusent de contracter puis qu'on n'a pas de remorqueuse, ça donne un peu raison au gouvernement Trudeau. Ouais. En même temps, le juge Mosley, il dit non, c'est pas vrai. La police a quand même quelques remorqueuses. Il y en a quelques-unes à l'armée. On aurait pu essayer quelque chose. Puis quand on regarde comment ça s'est démantelé à la fin, la manif puis les campements à Ottawa, ben, au fond, la police, elle a utilisé des moyens qui sont assez normaux, là. L'opération policière qui a duré plusieurs heures, voire plusieurs jours, elle s'est déroulée d'une manière qui n'impliquait pas en soi des pouvoirs spéciaux.
Non, c'est ça.
Un mot sur le fédéralisme. C'est, à mon avis, le parent pauvre de ce jugement, et c'est ce dont on parle pas assez sur les autres tribunes. La loi contient un critère en lien avec le fédéralisme.
Mais à la haut sur la colline, on est attentif à la question du fédéralisme.
Exactement. Et donc, la loi contient un critère en lien avec le fédéralisme. Un, il faut consulter les provinces. Puis là, c'est la première fois qu'on le faisait. Et quand on dit il faut avoir épuisé les moyens normaux, là, ben c'est comme si on dit il faut que les provinces ne soient plus capables de gérer la situation. Mm-hmm. Et là, je trouve que la décision du juge Mosley est décevante. Il donne pas au fédéralisme le poids qu'il devrait avoir. Alors, il y avait qu'une seule province qui est intervenue dans le litige, c'était l'Alberta. Et là, il faudra se demander, le dossier s'en va en appel, est-ce que le gouvernement du Québec va aller défendre les intérêts du Québec devant la Cour d'appel, Cour fédérale d'appel? Je crois qu'on devrait le faire, parce que là, on a un précédent qui dit tenir une réunion téléphonique avec les provinces dans laquelle un grand nombre de provinces s'opposent à l'état d'urgence, c'est suffisant pour s'acquitter du devoir prévu par la loi. Consulter... On voit que selon le juge Mosley, consulter, là, c'est obligation assez minimale. Et je pense que c'est important que le Québec ait expliqué que non, consulter les provinces, il faut que ça soit un peu plus que ça. Mm-hmm. Le beau côté du raisonnement du juge Mosley sur le plan du fédéralisme, c'est qu'il accrédite beaucoup la thèse que si l'état d'urgence n'est pas nécessaire dans toutes les provinces, alors il faut réduire son application territoriale. L'approche du gouvernement Trudeau qui consistait à dire état d'urgence de Halifax à Vancouver pour une crise qui se déroule à Ottawa. Oui.
Okay.
Ça, le juge Mosley est très sévère envers ça. Donc ça invite à une application asymétrique, ce qui est très favorable. Mais là, le pas supplémentaire, c'est qu'il faut réussir à convaincre les tribunaux que justement, si ça concerne que Ottawa, alors OK, c'est pas grave, peut-être que le Québec et l'Alberta et d'autres provinces soient contre le recours à l'état d'urgence, mais peut-être qu'il faut que la province concernée soit d'accord. Dans le cas qui nous occupe, le gouvernement Ford était d'accord.
Oui.
Mais pour l'avenir, là, pour les prochains cas, on parle dans le très long terme, c'est peut-être important d'aller se battre devant les tribunaux pour aller chercher cet aspect-là. Peut-être que ça prend pas l'unanimité des provinces pour faire un état d'urgence fédéral. En tout cas, c'est ce que laisse entendre le juge Mosley. Mais est-ce que ça prend au moins une opinion favorable ou une demande de la province concernée? Le juge Mosley évite la question. L'Alberta est au front devant le tribunal. Peut-être qu'il va falloir que d'autres provinces se joignent, éventuellement en cour d'appel, sinon en cour suprême.
Est-ce qu'on est au courant des opinions ou des arguments qui ont été présentés par l'Alberta?
Oui, ils sont parfois ramenés dans le débat, une logique évidemment de droit individuel un peu libertarienne, puis une logique de défense de l'autonomie provinciale, un peu comme un rappel que le gouvernement Kenney était contre l'intervention par ailleurs.
Ouais.
Bon, un aspect dont on parle très peu, mais qui est important, quand on lit la décision, là, c'est plus du tiers de la décision, presque la moitié, où on se pose la question, est-ce que tout ça est devenu théorique?
Ah oui.
Et des juges moins courageux, mais peut-être plus prudents, auraient botté en touche, auraient esquivé ce débat en disant « Tout ça, c'est devenu théorique, le campement est fini, puis l'affaire est derrière nous. » Et les gens qui nous saisissent de ce recours, là, ils n'ont pas subi un préjudice, ils sont pas directement affectés. Alors ça occupe aussi une grande partie du débat. Puis c'est pas impossible finalement qu'on aille jamais au bout du débat parce que peut-être qu'en cours d'appel, ils vont revenir sur cet argument, c'est devenu théorique et on oublie ça, on met le couvercle là-dessus.
Ah oui.
N'empêche que dans le raisonnement du juge Mosley, il y a une tendance à se réfugier derrière des considérations générales et abstraites puis à fermer les yeux sur les cas concrets qui sont devant lui.
Ah oui, OK.
Je m'explique. Je te donne un exemple très emblématique. Le truc le plus attentatoire aux droits et libertés dans tout ça, c'est probablement la saisie des comptes bancaires. En tout cas, ça joue là, dans la vie des gens.
Vraiment.
Ben, le problème qu'il a, c'est que il n'y a pas vraiment de cas devant lui de comptes bancaires saisis. En fait, les deux seuls qui ont réussi à trouver puis à lui soumettre, le juge Mosley dit, ces gens-là ont vu leur compte bancaire saisi, mais ont subi aucun préjudice de la chose. La chose a engendré aucun préjudice parce que le délai a été court, parce qu'ils ont eu des cartes de crédit. Donc, il est comme dans un paradoxe là où ça arrive à plusieurs endroits dans son jugement. D'ailleurs, à un moment donné, il dit, ben là, je vais rendre un jugement déclaratoire. Je vais te dire que ce que le gouvernement Trudeau a fait, c'était pas bien. mais il n'y a pas lieu d'indemniser les gens. Il n'y a pas lieu parce que c'est comme s'il dit, il n'y a pas un gros préjudice devant nous.
Il n'y a pas de conséquence à ma décision.
Il est sur le terrain des principes. Et ça, peut-être que d'autres juges auraient été amenés à dire, ben écoutez, s'il n'y a pas de conséquences concrètes et significatives dans la vie des gens, peut-être que dans ce cas-là, il faut esquiver ce débat-là. À la fin, il y a aussi une question centrale, c'est le, j'appellerais ça le syndrome du gérant d'estrade. Est-ce que c'est pas un peu facile pour un juge avec 2 années de recul d'arriver puis de dire, ben moi maintenant, là, 2 ans après, je le sais qu'on n'aurait pas dû faire ça. Et là, il y a comme un paradoxe, il y a un rapport entre le droit et le temps et la politique, évidemment. Pendant la COVID, on a vu des juges très, 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 très prudent dans le feu de l'action, valider tous les décrets sauf un, puis ça à l'échelle pan-canadienne. Dans ce dossier-là, toutes les décisions provisoires et interlocutoires des demandes d'ordonnance en cours de route, en attendant le jugement du juge Mosley, tout ça, ça a été rejeté. C'est la prudence qui a triomphé. Et là, le juge Rouleau, la prudence aussi, le bénéfice du doute. Et là, après 2 ans, ben c'est sûr qu'avec le recul, ça devient facile de dire au gouvernement... vous auriez dû essayer ci, vous auriez dû essayer ça. Mais le gouvernement qui est dans le feu de l'action, lui, il ne le sait
c'est
pas.
C'est le corps arrière ce qui va marcher. Du lundi matin.
Exactement. Exactement.
Alors que la politique, c'est toujours un pari. Les prises de décision politiques, il y a toujours une grande part de pari.
Oui, et son analyse là de la justification de l'action gouvernementale est très, très courte. Il se met très vite dans la situation où le gouvernement aurait pu faire mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aime mieux son analyse du non-respect de la loi que son analyse sous les chartes. Je trouve que son analyse sur les chartes joue beaucoup au gérant d'estrade. Et à la fin, il y a une conclusion très divertissante, Antoine. Il nous explique comment, dans une espèce de parenthèse un peu bizarre, comme s'il veut dire que, au fond, je suis pas si fou que ça. J'ai déjà été d'accord avec le gouvernement. Il nous explique que lui, comme citoyen, il trouvait ça correct que le gouvernement utilise l'état d'urgence.
Mais voyons
que durant l'audition, il était convaincu par les arguments du procureur général du Canada. Donc là, il est en train de juger ce qui est raisonnable, machin et tout. Puis il nous explique à quel point il a toujours pensé que c'était raisonnable ce que le fédéral fait.
Mais qu'est-ce que ça vient faire
à la dernière minute
d'un tribunal, ces propos-là sur ce qu'il pense, ce qu'il pense pas, on s'en fout, non?
Est-ce qu'il voulait expliquer au fond que c'est en analysant de façon très détaillée la preuve qu'il a changé d'idée? Est-ce qu'il voulait dire au fond, je suis pas fou, là, je suis pas en accord avec le convoi de la liberté? On a affaire à un juge très très respectable, une carrière remarquable. Une nomination libérale, 2003, gouvernement chrétien Martin. Peut-être une façon de dire, écoutez, là, je sais pas. Mais c'est une conclusion très, très, très divertissante. Si vous ne lisez que 2 paragraphes, allez lire le début de la conclusion.
C'est ce qu'on va aller faire,
et je pense qu'il faut attendre la suite avec les tribunaux
d'appel. Formidable. Merci beaucoup, Patrick Taillon. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique constitutionnelle. Merci.
Merci à toi, Antoine.
Je rappelle que tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.